Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9 ou sur le net, graphite.net. On se retrouve pour la dernière émission de l'après-midi et même du semestre consacré au cours WE01, questionner le web de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net. Pendant ces émissions, les étudiantes et les étudiants viennent restituer l'aboutissement de leurs travaux du semestre, donc c'est un peu leur projet qui s'est articulé autour de l'étude de grande problématique du web ou plus généralement du numérique. Et pour le premier groupe qui est avec moi en direct en studio, Léonie et Aurélie pardon et Eugène, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Et vous avez notamment travaillé sur la question de l'intelligence artificielle et je vous laisse du coup, je spoil pas la suite, je vous laisse commencer.
Bonjour à tous, bonjour Quentin, nous sommes Aurélie, donc Eugène et Léonie, en cycle ingénieur mécanique à l'UTC et nous vous proposons cette émission de radio, comme tu l'as dit, dans le cadre de WE01 et c'est une matière donc traitant des enjeux du web et du numérique. Et cette émission a but pour vous présenter un article de blog et de la mettre en lien avec la notion de la prolétarisation.
L'article que nous avons choisi de vous présenter s'intitule « ChatGPT, le mythe de la productivité ». Il a été publié en septembre 2024 par Hubert Guillot, journaliste et essayiste français spécialisé dans les systèmes techniques, numériques et leur impact sur la société. Une des idées exposées dans le texte est celle selon laquelle l'intelligence artificielle répond parfaitement au mythe d'une productivité voulue par les entreprises. Mais que signifie concrètement le terme de mythe de la productivité ? Guillot affirme « Le mythe de la productivité suggère que tout ce à quoi nous passons du temps peut être automatisé. C'est un concept qui suggère que les entreprises créent un monde dans lequel la valeur donnée aux choses est plus importante que ce qui est apporté aux hommes par le processus de création. D'où le mythe que produire est plus important que de tirer de l'utile de ce processus de création. Nous souhaitons vous proposer un exemple qui nous semble assez parlant pour nombre d'entre vous. Nombre de petits-enfants ont le souhait de réaliser un livre retraçant la vie de leurs grands-parents, leur histoire et laissant une trace de la personne qu'ils ont été. Avant, pour entreprendre un tel projet, il fallait passer plusieurs heures à discuter avec eux pour connaître et comprendre leur histoire. Il fallait ensuite prendre le temps de réfléchir à chaque détail qu'ils avaient évoqué afin de les mettre en ordre et de trouver les bons mots. Cela permettait de les comprendre réellement, de les connaître réellement, mais aussi de partager un moment complice et sincère avec eux. Aujourd'hui, des applications génératives dédiées permettent d'enregistrer les récits de la personne âgée avec un micro, puis de les retranscrire et de les organiser afin de former le livre en moins d'une heure. La finalité est la même. Elle peut même être mieux, étant donné qu'il n'y a pas le facteur humain, les erreurs humaines comme les oublis ou les malcompréhensions, et ce, en un temps nettement réduit. Cependant, ce deuxième processus n'a pas permis le moment de partage et de création de liens. Il est d'une productivité certes remarquable, mais n'a rien apporté de plus à l'individu que le produit final, contrairement à la première méthode. Nous trouvions que cet exemple illustrait assez bien les deux citations suivantes tirées du texte. La première étant « Pour les entreprises, l'efficacité est supérieure au but. Elle est le but qui invalide tous les autres. Quand le but de l'art, de l'éducation ou de la pensée est d'être confronté à l'intentionnalité. » La deuxième citation « Le mythe de la productivité suggère que tout ce à quoi nous passons du temps peut être automatisé. La production peut être accélérée sans limite. » Les raisons pour lesquelles nous le faisons, la profondeur que cela nous apporte, n'ont pas d'importance. Selon ce mythe, le but de l'écriture, c'est de remplir une page, pas de réaliser le processus de réflexion qui l'accompagne. À présent, nous allons vous laisser écouter un extrait d'entretien d'Anna Alombert, philosophe des techniques et ancienne membre du Conseil national du numérique, interrogée sur le thème de l'IA.
J'essaye d'expliquer qu'il y a une délégation ou une extériorisation de ce qu'on pourrait appeler le savoir s'exprimer, c'est-à-dire nos capacités expressives. Et là, bah, c'est un petit peu le même phénomène, c'était qu'au lieu de mobiliser notre mémoire, notre imagination pour nous exprimer de manière singulière avec notre style, notre accent, notre langage, avec aussi toutes les fautes que nous pouvons faire très souvent, etc., eh bien, nous allons déléguer cette tâche à la machine, qui est un système algorithmique qui fait des calculs probabilistes sur des quantités massives de données, qui va nous générer un texte très standardisé, très lisse, etc. Parfait à bien des égards, mais aussi peut-être complètement insignifiant. Et nous, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Bah, finalement, à corriger éventuellement quelques erreurs de ce texte, mais nous devenons l'accessoire de la machine, comme disait Marx, de l'ouvrier. Hein. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'à corriger les erreurs de la machine.
Selon Karl Marx, théoricien du socialisme au XIXe siècle, la prolétarisation désigne la dépossession du savoir-faire du travailleur de par le déploiement de la technique de l'industrialisation. L'ouvrier est substituable, au contraire de l'artisan, qui incorpore un savoir-faire. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx affirme que le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de l'ouvrier tout caractère d'autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. Le producteur devient un simple accessoire de la machine. On n'exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Avec l'industrialisation et le taylorisme, les ouvriers se voient alors dépossédés de leur savoir-faire. La machine et l'organisation scientifique du travail fragmentent les gestes, rendant le travailleur interchangeable et ignorant le processus global. C'est la perte du savoir-faire. L'individu se voit dès lors dans l'incapacité de transmettre, de pratiquer et de transformer son savoir. Il devient l'employé d'un système exécutant des tâches. Selon Bernard Stiegler, dans son ouvrage « État de choc, bêtises et savoirs au XXIe siècle », publié en 2012, la prolétarisation ne désigne pas seulement la condition ouvrière au sens marxiste classique, c'est-à-dire perte de la propriété des moyens de production, mais un processus plus large de perte de savoir et d'autonomie, provoqué par l'évolution des techniques et des technologies. On ouvre les guillemets, le prolétariat est constitué non pas par la classe ouvrière ou laborieuse en général, mais par la mise en extériorité du savoir par rapport au sachant. Bernard Stiegler, État de choc, bêtises et savoirs au XXIe siècle. Et c'est exactement sur ce point que nous souhaitons rebondir. En effet, un pont peut être fait entre le concept du prolétariat et l'intelligence artificielle. On s'explique.
So, software engineering roles is not just about writing code. It actually talks about, you know, we need to understand what the user needs. We need to collaborate across roles and also making tough decisions with empathy and responsibility. This is what a soft engineer should be doing, right? We're not just text executors. The best engineers are not the ones who code the fastest, but the ones who think the deepest. So a good engineer will take messy problems, ambiguous problems, and guide machines towards a structured and meaningful outcomes. So there are system architects who design the best solutions. And they should be the AI collaborators who use AI to implement those solutions. And then they need to be ethical technologists to make sure the solutions that we're building are truly benefiting human beings.
L'extrait que nous venons d'entendre est issu d'une conférence donnée par Raymond Fu, entrepreneur et chercheur sur les technologies de l'IA. Le nom de la vidéo était « Learning Software Engineering during the Era of AI ».
En nous intéressant au sujet de l'intelligence artificielle, le phénomène de prolétarisation défini par Stiegler peut être observable indépendamment du milieu social. À première vue, l'IA peut être perçue comme un assistant permettant d'augmenter la productivité et de gagner du temps sur des tâches chronophages. Mais en se reposant sur un outil externe, l'IA dans notre cas, l'utilisateur tend à se retirer la possibilité de sortir du cadre proposé par celle-ci pour exercer une réflexion approfondie. L'utilisateur peut avoir l'impression d'acquérir une maîtrise du sujet, mais cette maîtrise est superficielle et ne permet pas de s'approprier les connaissances. L'acquisition de connaissances et de compétences est un long processus demandant de travailler profondément le sujet auquel on s'intéresse. Lorsque l'IA délivre des informations, elle ne peut pas indiquer pourquoi ces données existent. Elle peut bien sûr des fois citer des sources, mais jamais donner leur position idéologique, les clés d'interprétation, de critique, de remise en question et de développement. Il est donc impossible de créer une réflexion nouvelle sur un sujet en se basant uniquement sur des données fournies par l'IA, dont les mécanismes de construction sont généralement flous. En plus de cela, souvent dans un but d'efficacité dans le cadre du travail en entreprise, l'utilisateur peut être amené à être dépossédé de ses moyens de réflexion. Cette dépossession n'est pas voulue ni consciente, elle répond à un objectif de rapidité et de gain de temps. Les productions textuelles s'enchaînent, et sans s'en rendre compte, l'auteur effectue moins de vérifications. Or, l'utilisation d'une production, surtout par l'IA, doit être vérifiée avant d'être utilisée. La charge de travail n'est donc plus diminuée, mais simplement déplacée. Prenons l'exemple du métier de développeur. La production d'un script par l'intelligence artificielle sera plus rapide, évidemment, mais il est très probable que cette dernière ne soit pas... que la personne qui a produit ce script par IA ne soit pas en capacité de détecter les erreurs commises par l'IA, et la bonne conformité du code sera remise dans les mains d'un petit groupe de personnes plus qualifiées. Les individus ne sont donc plus des créateurs de connaissances, mais sont relégués à un simple rôle de vérification. Cette dynamique est un phénomène réellement observé en entreprise. Les ingénieurs juniors produisent plus en s'aidant de l'IA. On estime à 30 à 40% le gain de productivité, mais la charge de travail des seniors est déportée de l'écriture du code à la vérification de codes complexes écrits par IA. On observe qu'ils perdent environ 15 à 25% de productivité. Ce sans compter les potentielles atteintes à la sécurité qui ne pourraient pas justement être détectées. Le bénéfice de ce pseudo-gain de productivité est questionnable, d'où le terme de « mythe de la productivité » employé par Hubert Guillot. Même lorsque l'utilisateur ne se sert pas de l'IA, le fait même que celle-ci existe perturbe le mode de création. Elle peut amener une baisse de motivation et engendrer la perte du sentiment d'utilité chez l'individu. À l'heure actuelle, lors de la production d'un texte, complexe ou non, la question de l'utilisation de l'IA se pose toujours. Un texte n'est plus simplement écrit, il est écrit avec IA ou il est écrit sans IA.
Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Merci à Graphite et à Quentin de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette émission. Notre travail se place sous licence CC by NCCA.
Merci beaucoup à vous Léonie, Aurélie et Eugène pour votre exposé qui était très clair et pour laisser vu qu'on est juste pour rendre le studio mais qu'on le rendra quand même à l'heure et pour laisser autant à Camille et Lucas de s'installer, on va passer le début de la musique que vous aviez proposé de passer. Est-ce que vous voulez nous en dire juste deux mots, la présenter?
Bien sûr, alors c'est Digital Love des Daft Punk. Donc c'est une musique qui parle d'un amour fantasmé. Et le titre de l'œuvre, donc Digital Love, nous laisse à penser que les Daft Punk parlent potentiellement d'un amour digital et non pas d'un amour véritable.
Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite.
I'm dancing.
De retour sur Graphite 94.9 pour la dernière intervention consacrée à la restitution des projets W01 UV à l'UTC, questionner le web. Et donc, pendant ce temps-là, qu'on écoutait Digital Love de Daft Punk, vous avez eu le temps de vous installer, Camille et Lucas, bienvenue à vous.
Bonjour.
Et vous allez nous parler de, notamment dans votre émission, de quelque chose qui est peu abordé, je trouve, dans les discussions grand public, qui est de réseaux sociaux alternatifs. Ça paraît un peu bizarre, un réseau social alternatif. On voit mal comment ça pourrait se faire, je trouve, ou encore moins décentralisé. Mais du coup, je spoil pas plus et je vous laisse faire votre émission.
Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Camille Debeny et je suis en IM4 à l'UTC.
Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en IM5 à l'UTC, donc aujourd'hui dans le cadre de l'UV WE01, qui est une UV dont le but est de nous questionner sur le web, nous allons vulgariser une notion scientifique en lien avec le web à partir d'un article que nous avons choisi.
Pour faire cela, nous allons diviser la présentation en trois parties distinctes. Il y aura une première partie sur la présentation de l'article, une deuxième partie sur la présentation d'un concept de cours en lien avec l'article, et enfin une dernière partie, sur l'articulation de l'article et du concept.
Et entre chaque partie, il y aura un extrait audio pour permettre une meilleure illustration de nos propos, et nous diffuserons aussi un morceau de musique à la fin du podcast.
L'article que nous allons présenter se trouve sur la plateforme Framablog et il est intitulé « Elon Musk et Twitter versus Mastodon et le Fediverse ».
Donc je suppose que vous n'avez pas compris grand-chose à l'intitulé de cet article. C'est normal, je vous rassure, nous non plus avant de se plonger dedans.
Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, l'article a été publié par le collectif Framasoft en 2022 sur la plateforme Framablog. Mais qu'est-ce que Framasoft ou un Framablog, Lucas ?
Alors Camille, un Framablog, c'est un blog officiel de Framasoft, qui est une association française qui promeut les logiciels libres et des alternatives éthiques aux grandes entreprises numériques.
Mais je comprends pas. Pourquoi a-t-on besoin d'alternatives éthiques aux grandes entreprises numériques ?
C'est justement ce dont parle notre article. À force d'utiliser toujours les mêmes plateformes web telles que Google, Twitter, il se crée ce qu'on appelle la centralisation. Donc en gros, toutes nos informations et activités sont centralisées sur ces plateformes-là, qui peuvent donc se permettre de nous imposer leur surveillance et choix de pensée.
Que veux-tu dire par choix de pensée ?
En fait, les réseaux sociaux influencent grandement nos opinions, que ce soit en politique, dans nos choix de consommation ou même dans notre vision du monde. Donc les personnes possédant ces réseaux sociaux influencent nos pensées.
Je vois ce que tu veux dire. Les algorithmes décident quel contenu nous voyons en priorité et peuvent donc orienter notre attention.
Exactement. Et c'est dans ce contexte que l'article parle de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, devenu aujourd'hui X.
Oui, j'en ai entendu parler. Lorsque Twitter a changé de direction, beaucoup d'utilisateurs se sont demandé s'ils voulaient continuer à dépendre d'une plateforme contrôlée par une seule entreprise et une personne aussi controversée.
Et c'est là qu'intervient Mastodon.
Oui, Mastodon, le réseau social qui ressemble à Twitter dans son fonctionnement, mais qui repose sur un modèle complètement différent.
Exactement. Au lieu d'avoir un seul serveur central qui appartient à une entreprise, Mastodon est composé de nombreux serveurs indépendants. Donc chaque communauté peut gérer son propre espace tout en restant connecté à celle des autres.
Donc tout le monde peut communiquer ensemble sans passer par une plateforme unique ?
C'est ça, c'est ce qu'on appelle le Fediverse, contraction de fédération et univers.
Je suis pas sûre de comprendre exactement le fonctionnement de Mastodon. Comment est-ce qu'on peut avoir des serveurs différents ?
L'extrait qu'on va passer juste maintenant va justement l'expliquer.
What is the Fediverse ? To exchange emails, do you need to join the email provider of your pen pal? How about their phone network? Meow. Of course you don't, because standards exist to federate these services, enabling you to communicate with anyone regardless of provider. Without federation, you would have to subscribe to multiple providers. Or worse, the services with the most users would hoover up everybody else, eventually leading to monopolies and open to abuses. So why should everyone subscribe to the same platform to share videos and messages? Why aren't social networks federated? Each planet here is like a service provider. With a centralized approach, you can only interact with the people on the planet you live on. Now imagine if you could communicate with people on other planets. Imagine if you could share videos, events, instant messages, microblogs with the whole universe. Imagine if it didn't matter which planet you came from. Standards are a common language for software to communicate. Your login on any of these services allows you to interact with the whole diverse universe
Northwest not being tied to just one corporation. This is the Federated Universe. The Fediverse.
Alors voilà, la vidéo est en anglais, mais j'espère que vous avez tout de même compris. La vidéo utilise l'exemple des opérateurs et des appels téléphoniques. Mais si on prenait l'exemple des réseaux sociaux qu'on utilise, c'est comme si on pouvait parler avec des personnes sur Twitter depuis Snapchat.
Framasoft a aussi créé sa propre instance de Mastodon, mais face au succès de celle-ci, Framasoft a choisi de ne plus accepter de nouveaux utilisateurs afin d'éviter la surpopulation de son serveur. Donc l'association encourage donc les internautes à rejoindre d'autres instances Mastodon, donc en fait d'autres serveurs, ce qui permet de conserver un réseau décentralisé et à taille humaine.
Comme vous pouvez l'imaginer, le concept que nous avons choisi en lien avec cet article est celui de la centralisation et de la décentralisation du web. La centralisation correspond à une organisation dans laquelle les données, les services et les décisions sont regroupés dans une structure unique.
C'est par exemple le cas de plateformes comme Facebook, Instagram ou X. Une seule entreprise possède les serveurs, collecte les données et décide les règles d'utilisation comme il est expliqué avec dans l'article.
Cela présente certains avantages. Les services sont souvent simples à utiliser, les mises à jour sont rapides et l'expérience utilisateur est homogène.
Mais ça comporte aussi beaucoup de limites. Donc l'entreprise peut modifier les règles à tout moment, collecter des données personnelles ou encore imposer certaines conditions aux utilisateurs.
À l'inverse, la décentralisation répartit les responsabilités entre plusieurs acteurs.
Et donc dans ce modèle, il n'existe pas de centre unique. Plusieurs serveurs indépendants coopèrent pour faire fonctionner le service, comme avec Mastodon.
Si l'un des serveurs rencontre un problème, l'ensemble du réseau continue de fonctionner. De plus, chaque communauté peut définir ses propres règles de modération et de gouvernance. Par conséquent, si certaines règles ne vous conviennent pas, il suffit de changer de serveur.
C'est ça, nous pouvons même dire que la décentralisation favorise davantage l'autonomie des utilisateurs, même si elle présente aussi quelques défis. La gestion est parfois plus complexe et l'expérience utilisateur peut donc être moins uniforme.
Une autre notion de cours que l'on retrouve en lien avec cet article est la notion que le code fait loi.
Cette expression signifie que les règles inscrites dans un logiciel influencent directement ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire. En quelque sorte, le code informatique agit comme une sorte de règlement invisible.
Par exemple, sur un réseau social, le choix de montrer certains contenus plutôt que d'autres est déterminé par des algorithmes. Les utilisateurs n'ont généralement aucun contrôle sur ces mécanismes.
Et dans un système centralisé, ces règles sont décidées par une seule entreprise. Les utilisateurs doivent alors accepter les choix de ces entreprises et réalisés par ces plateformes.
Alors que dans le Fediverse, chaque instance peut mettre en place ses propres règles de modération et de fonctionnement.
Cela donne davantage de pouvoir aux communautés locales et permet une plus grande diversité dans le fonctionnement.
On retrouve donc un lien direct entre la décentralisation et la question de la gouvernance du web.
Exactement. La technologie, elle n'est jamais totalement neutre. La manière dont un service est conçu influence la façon dont nous communiquons, partageons l'information et exerçons notre liberté en ligne. Voici maintenant un extrait qui illustre le rôle majeur des réseaux sociaux dans la prise de parole.
Ils n'en pouvaient plus que rien ne soit fait pour les jeunes à trop paumer. Marre du vieux maire. Alors Fama a lancé la mobilisation. Appel à manifester avec un mot-clé, hashtag MeToo. Le jour J, la place était noire de monde. Vive la démocratie sur les réseaux sociaux. Enfin un endroit où tout le monde peut prendre la parole et où l'avis de chacun a le même poids. Les réseaux sont un formidable outil pour contourner la censure dans les dictatures et dans les démocraties, pour faire entendre une colère, lancer un débat. Mais quand le maire de Troupeaumet a suggéré de faire des propositions, entre ceux qui voulaient un centre commercial ou une vraie médiathèque, on en est vite arrivé aux insultes. Sans parler du groupe, très petit mais très actif, pour un skatepark. La belle démocratie est devenue un bazar. Au début, Kamel recevait des messages des trois côtés. Mais comme il ne likait que ceux pour la médiathèque, eh bien, l'algorithme a cessé de lui en proposer d'autres. Il n'échangeait plus qu'avec des gens de son avis, fini le débat et l'esprit critique. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir par une fake news. Le maire avait déjà choisi en secret le centre commercial pour mettre son fils à sa tête. L'origine de cette infox, un fumeux groupe de BTP dont l'activité principale est la construction de médiathèques. Les réseaux ont changé les règles de la démocratie. Les débats compliqués y sont résumés à de courts messages. Des acteurs opaques cherchent à influencer les échanges. Une minorité bruyante peut s'imposer. Et puis une médiathèque, un skatepark ou un centre commercial, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il faut du temps pour y réfléchir, pour les construire. Tout le contraire du buzz des réseaux qui nous empêchent de nous poser. Alors une rampe de skate, des commerces ou des livres? Qui doit décider? Chacun d'entre nous, en un clic, démocratie directe, au moins on a le pouvoir, mais c'est sans filet. Ou des gens qu'on élit, démocratie représentative. Ils sont parfois un peu décevants, mais ils prennent le temps de la réflexion. Au début, Fama rêvait de rajeunir la municipalité. Mais elle a mesuré toute la différence entre un like et un véritable engagement. Pour sortir le vieux maire, il va falloir se battre longtemps et sur le terrain.
Finalement, cet article illustre parfaitement les notions de centralisation et de décentralisation étudiées en cours.
Twitter représente un modèle centralisé. Une seule entreprise contrôle l'infrastructure, les données et toutes les règles de fonctionnement.
Mastodon et le fait divers proposent au contraire une organisation distribuée où plusieurs acteurs collaborent tout en restant indépendants.
Cette différence peut sembler purement technique, mais elle a en réalité des conséquences importantes pour les utilisateurs.
Par exemple, sur la protection des données personnelles, la liberté d'expression ou encore la capacité des communautés à s'organiser elles-mêmes.
L'article montre également qu'il n'existe pas de solution parfaite. La centralisation importe souvent plus de simplicité alors que la décentralisation offre davantage d'autonomie.
Le véritable enjeu est donc de comprendre les conséquences de ces choix techniques afin de pouvoir utiliser le web de manière plus éclairée.
Cette réflexion est d'autant plus importante aujourd'hui que quelques grandes entreprises concentrent une grande partie de nos échanges numériques.
Le fait divers propose une autre vision d'Internet, plus proche de son fonctionnement d'origine, un réseau composé de nombreux acteurs capables de communiquer entre eux.
Même si ce modèle reste moins connu du grand public, il montre qu'il existe des alternatives aux plateformes dominantes.
Pour conclure, l'article de Framasoft nous a permis de découvrir Mastodon et le fait divers, mais surtout de mieux comprendre les enjeux liés à l'organisation du web.
Nous avons vu que derrière les réseaux sociaux que nous utilisons quotidiennement, se cachent des choix techniques qui ont également des conséquences qui sont sociales, mais aussi politiques.
La question n'est donc pas seulement de savoir quel réseau social utiliser, mais aussi quel type d'Internet nous souhaitons encourager.
Qui est donc centralisé autour de quelques grandes plateformes ou davantage réparti entre de nombreux acteurs indépendants.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
On espère que cette présentation vous aura permis de découvrir une autre façon d'envisager le web.
Et nous vous laissons maintenant avec un morceau de musique pour terminer cette émission et attendre vos questions. C'est un morceau de musique de Népal, qui est un artiste qui nous a malheureusement quitté récemment. Et son morceau s'appelle Babylone.
Comme à l'usine, Babylone a gagné. J'ai pas baisé Kim K ou mes demi de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la cahier. Approcher la cage, j'ai pas le temps pour les fans. Moi, Anna, Neven, Agadje. C'était dans l'under, il faut péter la cage. Trop d'histoires noires, qu'aussi si je pouvais te les cracher. Y'aurait 4 mixtapes de quoi t'écorcher la trachée. Ouais, les corges, elle attaché. Je me déterre seul. Tu veux t'en péter un tel gros, tu vas péter le seum. Si je le fais, c'est pour mon futur, pas par gaieté de cœur. Quand elles ont tout, elles prennent. Quand elles ont R, elles turnent. J'ai perdu beaucoup d'avant pour des futilités. Dieu merci, peu de proches m'ont été subtilisés. Tu traînes avec des javons pour les utiliser. Tu vas finir comme le client qui se prend pour celui qui viscère. En gros partout sauf dans le contexte. Fuck le décor, je porte mes défauts comme un charclos dans la street sous cheese. Pop le com, tu connais pas la peine de forcer pas de com toute skinny. Tout ce que je vole à tort, je te le redonne. Je vais pas te ken, te fuis pas au sourire. On choisit bien les sous-titres. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. J'ai pas baisé Kim K ou mes demi de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille. Approcher la cage, j'ai pas le temps pour les fans. Moi, Anna, Neven, Agadje. C'était dans l'under, il faut péter la cage. Si j'étais moins en l'air, je deviens difficile à catcher. Pourtant, ouvre bien les rails, au gros, y'a air qu'on va cacher. Pas chatouilleux de la gâchette. Quête de face, j'ai l'air inoffensif comme une paire de Vans. Mélon et arrogant, t'as les mecs de Paris. Et je m'arrache loin d'ici quand je suis en perte de vibe. Savon qui fait planer comme la bête de frappe. Raffiné mais j'obéis aux règles de base. Tu peux te faire matrixer par un check de slarve. Et donc mollo sur la malle à ceux qui ont la tech le savent. Check le time. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim K, on met des mis de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille. Approcher la cage, j'ai pas le temps pour les fans. Moi, na, never na gache. Si t'es dans l'under, il faut péter la cage. Fais tes fers, ça, laisse les galères rien tâcher. Ta chance, faudra pas la gâcher.
De retour sur Graphite 94.9 pour la fin de cette dernière émission W01. Et du coup, j'en profite pour vous remercier, Camille et Lucas, pour votre travail et votre exposé très, très clair et intéressant. Vous avez vulgarisé plein de choses en rapport avec, du coup, ce concept de fédération et de faits divers. Autant de concepts qui sont... pas évident à aborder parce que dès qu'on parle de décentralisation, ça devient beaucoup plus compliqué que quand on a un seul système homogène où tout le monde est au même endroit. Et en particulier, vous aviez parlé du fait qu'il était possible de se balader en quelque sorte entre différents serveurs, que si un serveur ne nous parlait pas, on pouvait en changer. Aujourd'hui, ça paraît en effet difficile d'imaginer ce que je peux passer de... C'est quoi, c'est passé de Facebook à X? Est-ce que c'est passé de Facebook à un autre Facebook? Qu'est-ce que ça fait par rapport au compte qu'on suit? Est-ce que je pense que vu que c'est un des plus gros freins dont on entend parler, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
Alors oui, lorsqu'on parle de passer d'un serveur à un autre, c'est plutôt de passer d'une instance à une autre. Je ne suis pas une pro du web ou de comment sont gérés les serveurs, mais de ce que j'ai compris, les serveurs qui sont gérés dans Mastodon, c'est des personnes qui se portent volontaires de gérer ces serveurs et de posséder ces serveurs. Donc il y a différents exemples. Il y a parfois des particuliers ou des petites entreprises non-profit qui souhaitent gérer ces serveurs. Et le fait de vouloir passer d'un serveur à un autre, ça n'implique pas forcément d'enlever toutes ces données, il me semble, mais juste de se transférer d'un serveur à un autre. Et pour différentes raisons, si les règles de modération ne nous conviennent pas ou si tout simplement l'autre serveur a l'air plus sympathique.
Merci beaucoup pour ta réponse. En effet, je crois qu'il y a un service de l'État qui permet, pour donner une métaphore, de dire « je change d'adresse », par exemple. Et en fait, ce service va s'occuper de donner cette information à toutes les administrations et autres qui auraient besoin de cette adresse. Sinon, il faudrait appeler tout le monde pour dire « j'ai changé d'adresse, j'ai changé de numéro, que sais-je ». Et là, du coup, ça permet de se dire « je garde tous les gens que je suis ». Et je garde tous les gens qui me suivent voient toujours mes posts au même endroit, mais c'est juste un bouton. Et par contre, mes données ont changé complètement de localisation. Donc disons que pour l'utilisateur, c'est très simple, mais c'est inscrit dans le protocole tout ce qui va faire en sorte que la machine se rehuile bien derrière. Et comme vous l'avez dit, c'est pas simple vu qu'on est dans ces systèmes décentralisés. Bon, et en tout cas, merci à toutes les étudiantes et tous les étudiants de WE1 pour cet après-midi riche en projets, très intéressants et en thèmes très variés. Donc évidemment, si jamais il y a des gens qui traînent dans le coin que ça intéresse, je rappelle que toutes les ressources de WE1 sont accessibles sur librecours.net. Si d'aventure il y a des étudiants ou étudiantes qui traînent aussi, il y a l'UVIS3. qui aborde, qui viendrait peut-être un peu en complément de WE01, plus pour parler de comment est-ce qu'un ingénieur peut se placer dans une démarche de conception, y compris en incorporant les enjeux technocritiques dont on a plus fait le constat en WE1 que esquisser de réelles pistes de solutions, même si, heureusement, grâce à des projets comme le vôtre, on a quand même des bouts de réponse. Ça va être parfaitement l'heure de rendre l'antenne pour l'émission qui va commencer à 19h. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et bonne soirée.